Chapitre 29. Longtemps avant d'arriver à la Genivière, Pierre Noëlé s'était éveillé. Son père, qui guettait le moment, lui avait dit « Eh bien, mon petit, sais-tu où nous allons? Voilà la Vendée qui approche. Avant midi, nous serons chez nous. Es-tu content ?» Mais Pierre n'avait rien répondu. Tout le temps de la route, il était resté plongé dans une sorte de rêverie hébétée, se laissant emmener et diriger comme un enfant. Rien ne l'avait tiré de là, pas même l'entrée à la métairie, la vue et les baisers de la pauvre mère Noëlée à moitié folle de joie, les questions de ses sœurs, l'horizon familier de la Genivière. Une indifférence totale et stupide. Aucune vie dans son regard, autrefois plein de flammes. Le peu de mots qu'il disait lui venait comme incertain. Pour comprendre, il lui fallait un effort, et c'était une fatigue après laquelle il s'absorbait de nouveau. Dans tout son être, pendant des mois saturés de poison, la vie semblait à moitié éteinte. « Il est bien malade !» pensèrent tous ces braves gens de la Genivière. Et, sans beaucoup tarder, émus d'une pitié secrète, ils se dispersèrent çà et là où les appelaient leurs tâches, Marie, Antoinette, le père et le métivier accourus au bruit de la carriole. Autour de Pierre demeurait près de la cheminée, assis, la tête cachée dans ses mains, le travail quotidien recommença. Seule la mère Noëlée ne s'éloigna pas, n'ayant pas le cœur à la besogne. Elle avait espéré mieux du retour de l'enfant. Et jusqu'au soir, allant et venant d'une chambre à l'autre, elle ne cessa de s'occuper de lui, de le soigner, d'épier l'autre retour qu'elle attendait. Son désir fut vain. Aucune de ces douces industries maternelles ne réussit à vaincre l'engourdissement morne de son Noëlée. Le soir venu, bien triste, elle indiqua à son fils le lit même où il couchait jadis, et Pierre s'endormit, épuisé. Ce fut en pleine nuit qu'il reprit possession de lui-même, proche du matin. Il ouvrit les yeux et tressaillit. Il retrouva une impression de sa jeunesse, l'impression frissonnante de ses réveils dans l'absolu silence des campagnes, quand on se sent enveloppé de ténèbres, petite chose perdue dans l'ombre immense. À tâtons, il chercha les colonnes enfumées de son lit. C'était bien la Genivière, le nid d'enfance, c'était là qu'il vivait avec Jacques, au temps joyeux. Tous les visages des siens lui revinrent en mémoire, celui d'Antoinette et de Marie, celui du père et de la mère Noëlée, comme s'ils eussent regardé de son côté à travers la muraille. Cher regard plein de reproches tendres qui le pénétraient lentement. Mille visions du passé s'y joignaient. Et, avec délices, Pierre s'aperçut que son esprit était redevenu libre. Il se leva et appuya son oreille à la porte de la chambre. La respiration calme de ses sœurs, endormie tout près, glissait jusqu'à lui. Il alla jusque sous l'auvent de la haute cheminée. Les étoiles, au-dessus du trou béant, passaient, pâles déjà. Un petit chant d'oiseaux partit de la cour. C'était le rouge-gorge, perché sur les fagots de la Genivière, guettant vigilant, qui avait coutume d'annoncer ainsi que tout allait bien dans la nuit. Pierre le reconnut et sourit. Il se recoucha et continua de songer, mais doucement ému de se retrouver là et de sentir en lui l'enfant qui renaissait. Bientôt, le prélude hésitant d'une fauvette annonça le petit jour. Puis ce fut un merle, des pies qui se mettaient en chasse dans les arbres du ravin. Un vol de corbeaux rasa le toit dans le crépuscule. Une lueur parut à la fenêtre. L'aube, l'aube! Et le père sortit de la chambre, s'approcha du lit de son fils. Il venait avec précaution et s'étonna de le voir éveillé. « Vas-tu mieux, mon petit ? » demanda-t-il. « Oui, mon père. » « Te rappelles-tu que j'ai été avant-hier te chercher à Paris ?»« Très vaguement. il me semble que j'ai été transporté ici dans un rêve. M'en veux-tu ? » Pierre détourna un peu la tête, comme s'il avait honte, et répondit. « Mon père, vous avez bien fait de m'emmener. » C'était un regret bien peu explicite, bien orgueilleux encore. Cependant, le métayer s'en alla content. Ni ce jour-là, ni ceux qui suivirent, il ne fut question du passé entre Julien et son fils. À quoi bon ? Entre ce passé douloureux et l'avenir incertain, le métayer possédait son enfant et ne demandait rien de plus. Il savait le prix des trêves de la vie, il jouissait de celle-là. Il se disait que la chère Vendée ne pouvait manquer de bien conseiller le fils qu'elle retrouvait elle aussi. Et, la laissant agir, il se taisait. Plus tard, on verrait, on causerait ensemble. Et sa genévière au complet lui paraissait meilleure. Il y rentrait maintenant un peu plus tôt que de coutume, et son visage reprenait, en la voyant, l'expression joyeuse depuis longtemps perdue. Pour Pierre Noëlet, la résurrection était commencée. Il se livrait peu, fuyait le bourg et, le plus souvent, dès le matin, se jetait en plein champ. La campagne l'accueillait, l'enveloppait dans le grand sourire tendre qu'elle a pour ceux qui l'ont aimée. Il la parcourait en tous sens, au hasard d'une promenade lente, écoutant ce qu'elle lui disait, cette terre natale de Vendée qu'il avait connue petit et si content de vivre. Elle lui parlait de son enfance. Elle agissait sur lui par mille souvenirs à chaque pas éveillé. Elle le rendait peu à peu à des choses qu'il avait crues mortes. La paix, l'énergie, la confiance dans l'avenir, confiance bien vague encore, mais déjà consolante. Il se reprenait à la vie, et la vie aussi le reprenait. L'air salubre des hauts coteaux, les longues marches, l'apaisement de l'esprit, ramenaient le sang sur ses joues décolorées. Ses yeux se ranimaient, et la pensée s'y affermissait. Chaque jour, il revenait un peu meilleur et un peu plus fort à la genévière. Il y avait seulement des groupes d'arbres qu'il ne regardait pas, un côté où jamais il ne s'aventurait. Tant de révolte couvait encore en lui. Comment supporterait-il la vue de ce parc et de ce château dont Madeleine Lobrier était la souveraine et qui bientôt... Quand Pierre apercevait, à des détours de chemin, certains dômes de chêne largement épanouis ou la silhouette frêle d'un peuplier qui se balançait là, au moindre vent, il se détournait vite. Était-ce bien la seule raison, ce voisinage de la Landehue, qui l'empêcha, durant 2 semaines, de revoir Mélie Reynette ? Hélas, non. Il s'accusait lui-même d'ingratitude, il se reprochait chaque jour de n'avoir point encore donné à cette fille malheureuse, délaissée à cause de lui, le moindre signe de souvenir, l'aumône d'un mot reconnaissant. Et cependant, il n'allait pas à elle. Il avait peur du secret autrefois confié à la tisserande et dont peut-être elle triompherait maintenant. « Qu'est devenue Madeleine Lobrier ? » dirait-elle. « Mon pauvre ami, elle est mariée. » Il croyait entendre la raillerie vengeresse de Mélie, dont l'amitié, il appelait ainsi le dévouement que la jeune fille lui avait montré, s'était probablement aigrie dans l'abandon et dans la misère. En vérité, si grand philosophe qu'il fût, il jugeait bien mal un tel amour et une telle femme. Il surmonta enfin ses hésitations et se dirigea une après-midi vers le bourg par le sentier qui longeait le courtil. Quand il arriva près de la barrière du jardin, Mélie Reynette était dehors, faisant mine de sarcler de mauvaises herbes. Peut-être depuis 15 jours travaillait-elle ainsi, de longues heures, dans l'attente d'une visite qu'il lui devait si bien. Il fut frappé de sa pâleur et de l'air de dignité un peu dédaigneuse qu'elle avait. Elle lui parut semblable à ces madones aux yeux cerclés de brun, trop grand pour l'ovale aminci du visage, qu'il avait vu signé d'un nom célèbre aux expositions de peinture de Paris. En le voyant, elle n'eut aucune surprise et vint à lui avant qu'il ouvrît la clé pour entrer. Mieux valait qu'il demeurât de l'autre côté, comme un passant, puisque le bourg était si méchant pour elle. Il comprit et, immobile, la regarda s'avancer. Elle portait une bien pauvre robe usée, mêlée, à qui la toilette allait si bien jadis. Elle avait aux pieds de gros sabots. C'était presque une pauvresse. Elle s'arrêta, appuyée sur le manche de sa béchette. « Vous passiez donc ? » dit-elle tristement. « Non, je viens vous voir. J'aurais dû venir plus tôt, je le sais. »«
Vous ne me deviez rien ? » interrompit-elle. « Ne vous excusez pas. Vous avez été malade ? » ?»«
Oui. » »«
Le chagrin, sans doute. Mon pauvre Pierre, quand j'ai appris que Mademoiselle Madeleine se mariait, si vous saviez combien je me suis contrariée pour vous ?»
Elle ne se moquait pas, loin de là. Elle avait un regard si bon et si amical que Pierre fut tout ému de sa pitié. Il céda au plaisir amer de ceux qui souffrent et qui aiment à parler de leur mal.
« Si vous saviez, dit-il, ce que c'est que d'aimer et de se sentir tout à coup méprisé, rejeté comme je l'ai été.
Oui, tout le cœur se brise, n'est-ce pas ?
Je me suis senti tout petit, Mélie, quand ce rêve avec lequel je vivais depuis ma plus petite enfance m'a été arraché.
Il semble, en effet, que l'on ait perdu toute raison de vivre quand un pareil malheur vous atteint. Et le travail, on n'en a plus le goût.
Non, je n'ai plus rien fait, j'ai perdu ma place par ma faute. J'étais insensé. Et, ma foi, je le suis peut-être encore, car il n'y a pas d'heure où je ne pense à elle.
Penser à ce qui ne se peut plus, à ce qui ne se pourra jamais, voilà le tourment.
Oui, Mélie, et se rappeler les jours d'espérance en est une autre.
Ils reviennent à l'esprit sans qu'on puisse les chasser, les bons et les mauvais jours, tout tristes d'une manière ou d'une autre.
Vous aviez fait tant de sacrifices pour elle, Pierre.
Je les avais tous faits, Mélie, même celui de mes parents.
Il ne vous coûtait pas alors ?
Nullement. Je les lui offrais secrètement comme des preuves d'amour.
Et depuis, vous les avez comptés avec colère, je suppose, vous demandant comment tant de dévouement, tant de tendresse prodiguée pendant des années.
10 ans.
Oui, pendant des années et des années, avait pu passer inaperçu.
C'est bien cela, en effet.
Comment peut-on fouler aux pieds une pauvre créature humaine sans la voir, comme un brin de lierre ou de mousse qui ne se plaint pas ?
Vous êtes étonnante, Mélie. Vous devinez ces choses avec une sûreté.
Un de ces sourires qui n'effacent aucune tristesse du visage parce qu'ils viennent du fond triste du cœur effleura les lèvres de Mélie.
« Moi, dit-elle, j'ai vécu très seule et j'ai un peu souffert. C'est pour cela que je comprends. »
« Oui, vous comprenez, Mélie intelligente et bonne, ce que j'éprouve en songeant qu'elle est la femme d'un autre, d'un homme qui ne me vaut pas par l'intelligence, qui n'a pas lutté, souffert pour elle comme moi, qui n'avait ni réputation, ni une œuvre d'art ou de science, ni une fortune acquise par lui, pas le moindre hommage d'un effort personnel à lui offrir. Ah, que je voudrais savoir ce qu'il y a au fond de cette âme de jeune fille riche. Quel cœur ils ont, ces heureux. Je voudrais savoir si vraiment elle n'a jamais ressenti pour moi.
Quoi donc ?
Quelque chose qui fût voisin de l'amour, une estime secrète, ou seulement même un peu de pitié.
Ne cherchez point cela, Pierre. Vous n'avez qu'une chose à faire, vous remettre au travail et vous résigner.
J'en suis bien loin.
Moins que vous ne supposez. Avec un peu de courage, vous en arriverez à vaincre toute colère et tout ressentiment,
à souhaiter le bonheur de celle qui vous a méconnu, bien qu'il ne puisse plus venir de vous.
Jamais je ne pourrai. Vous ne me connaissez pas.
À pouvoir dire en vous-même, si vous la revoyez, vous que j'ai aimé, je sais que je ne vous serai jamais rien. Néanmoins, je suis heureux si vous êtes heureuse.
Et elle ajouta très doucement, « Croyez-moi, Pierre, cela est possible. »
Pierre Noëlé considérait avec étonnement cette tisserande du Fiesauvin qui, sans prétention, comme une chose toute simple, lui conseillait une si digne et si noble attitude.
« Mélie, reprit-il, je ne suis pas parfait comme vous. Je me sens faible et violent, mais je vous remercie quand même. Vous m'avez fait du bien. »
Le petit sourire triste de la jeune fille reparut et elle dit «
C'est que nous parlions d'elle. »
Peut-être. Je reviendrai vous voir, Mélie.
Dans 15 jours?
Ne soyez pas méchante. Où serai-je dans 15 jours?
Je ne veux pas même y penser.
Non, demain.
Mais demain, Pierre, votre sœur se marie?
Justement, vous pouvez croire que j'aurai hâte de fuir tout ce bruit de fête. Et puisque vous n'êtes pas parmi les invités, après souper, je viendrai ici, voulez-vous?
Oui, pendant qu'ils danseront là-bas.
Elle est heureuse, Marie.
Mais l'Irénette ne put achever. Les cruautés inconscientes de Pierre, la comparaison qu'elle faisait de son sort avec celui de Marie, étaient plus fortes que toutes les résolutions d'être brave. Elle pleurait.
Vous avez de la peine de ne pas avoir été invitée, dit Pierre.
C'est un peu ma faute, ma pauvre fille. Pardonnez-moi.
Par-dessus la clef, il passa le bras et prit dans sa main la main de Mélie Reinette.
À demain, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il. À demain.
Mais aucune joie n'en parut sur le visage de la tisserande. Bien au contraire, ses yeux s'emplirent d'une douleur profonde et elle dit, la voix coupée de larmes qu'elle s'efforçait en vain d'arrêter,
« C'est cela, Pierre. À demain, nous reparlerons d'elle. »
Il s'en alla troublé. Qu'avait-elle, cette Mélie? C'était une fille d'humble condition, mais délicate vraiment, et d'un cœur si clairvoyant. « Oui, pensait Pierre, elle m'a dit plusieurs choses que tant de femmes d'une éducation supérieure à la sienne n'eussent pas trouvées. Je ne lui ai parlé que de moi et de mes chagrins. Elle ne s'est plainte de rien. Et cependant, la vie pour elle a été dure aussi. Elle pourrait faire une femme excellente, oublieuse de soi, dévouée. Oui, vraiment. Et cette sorte de nature, fidèle et forte, doit donner le bonheur à ceux qui sont nés pour être heureux. » Il longeait le sentier. Arrivé à l'endroit voisin du jardin de Mélie, d'où l'on pouvait apercevoir la Landehue, grâce à une dépression de la haie, il tourna la tête et, d'un coup d'œil, il revit le parc avec ses massifs d'arbres et ses prairies bordées d'aubépines. Hélas, ces jeunes frondaisons, ces allées nouvellement ratissées dont la courbe s'évasait devant le perron de pierre blanche, ces corbeilles déjà fleuries, le château silencieux mais qu'on sentait prêt à s'ouvrir, tout attendait l'épouser. Il passa vite, il atteignit la genévière. Là, dans la cour, 3 jeunes gens plantaient un mai, une perche très haute, d'où pendait un cercle de barriques garni de bouteilles. Leurs gros rires, les coups de pioches et de barres de fer entamant le sol caillouteux sonnaient dans la campagne. La genévière aussi allait avoir sa fête. Demain, ce seraient les noces de Marie. Les monges compteraient une famille heureuse de plus. Elle avait aimé un simple forgeron, Marie. Elle n'avait point eu d'ambition et le bonheur lui était venu. «
Et moi ?» pensa tristement Pierre Noëlé. « Et moi ?»